Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens et disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et sur radiocampusamiens.fr. Nous sommes le mercredi 1er avril, ça devait être le printemps depuis un moment, mais le temps se moque bien de nous aujourd'hui, c'est un ciel pour les grenouilles et pour les poissons. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aline à l'interview et c'est moi, Margot, qui fera l'animation. Je vous propose également une petite chronique en fin d'émission. En côté musical, on écoutera Come Boy des Viagra Boys et Benny and the Jets de Elton John. Mais d'abord, on écoute l'interview d'Aline.
Alors aujourd'hui, on se retrouve place Gambetta dans le centre-ville d'Amiens pour une journée un petit peu particulière qui sera effectivement un peu plus demain, le 2 avril. C'est la journée mondiale de sensibilisation au TSA. Donc aux troubles du spectre autistique. Mais aujourd'hui, on est mercredi 1er avril et je suis en compagnie de deux personnes très intéressantes qui vont un peu nous expliquer, nous débunker et un peu savoir qu'est-ce que le TSA. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, alors moi je me présente, je suis Cécile Crovetto, je suis pédopsychiatre. La moitié de mon temps, je travaille sur le centre de ressources autisme. Avec ma collègue, donc je lui passe le micro.
Bonjour, moi je suis Alicia Ladan, je suis cadre socio-éducative, donc au centre ressources autisme de Picardie.
On va commencer par une question très simple, c'est quoi exactement le TSA ?
Alors le TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. C'est un terme plus récent, auparavant on pouvait parler d'autisme, il y avait d'autres termes qui existaient, autisme atypique, syndrome d'Asperger, etc. Maintenant, la nomenclature nous demande d'employer ce terme, TSA, trouble du spectre de l'autisme, qui fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement. Dans le TSA, quels sont les signes classiques qu'on peut retrouver ? On a principalement deux grandes catégories de signes, une qui va toucher toute la sphère relationnelle et de la communication, et toute une autre partie qui va correspondre au tout ce qui est comportement restreint, répétitif, stéréotypé, associé à des particularités sensorielles.
Et pourquoi on utilise le mot spectre ?
Alors tout à fait, on emploie le mot spectre parce que on n'a pas deux personnes pareilles, on n'a pas deux personnes avec le même type de trouble. Donc finalement c'est vraiment un spectre au sens large, dans le sens où cliniquement chaque personne va être différente, le TSA va s'exprimer de façon différente chez chaque personne. On peut aussi avoir des fois une expression plus légère des troubles, d'autres fois vraiment sévère. Donc le handicap va prendre une forme très variable à la fois en fonction de la personne, du contexte et aussi du moment de vie de la personne.
Donc vous travaillez pour le CRA de Picardie, d'Amiens en tout cas. Ça sert à quoi un centre de ressources comme ça ?
Alors du coup, le centre ressources autisme est bien de Picardie. Effectivement, on est situé à Amiens au CHU, dans le bâtiment Institut des troubles du neurodéveloppement. Cependant, notre champ d'action est sur toute l'ex-Picardie, donc N, Somme et Oise. Et comme son nom l'indique, on est avant tout ressources. Ressources pour toutes les familles, ressources pour les professionnels, ressources pour le public en général. Les missions principales, c'est l'accueil et l'information. Après, on a une grosse mission de diagnostic complexe, c'est-à-dire qu'on intervient en dernière ligne diagnostique sur les situations qui sont un peu plus compliquées à diagnostiquer. Ensuite, on a une mission de formation, sensibilisation à tout public, les enseignants, la gendarmerie, enfin toute personne qui veut s'intéresser à l'autisme, aussi les formations continues. Ensuite, on a une mission de ressources directes à la personne où on va accompagner un petit peu les personnes vers les autres dispositifs. En fait, on ne va pas se substituer à l'existant, mais on va les mettre en lien avec ce qui existe. On peut les guider dans le dossier MDPH, on peut les orienter vers les dispositifs existants. Et puis, on est aussi un lieu de ressources pour les aidants. On anime des cafés rencontres à destination des aidants toutes les 6 à 8 semaines. Donc notre lieu, c'est vraiment d'être un lieu ressource pour toute personne, en plus de l'aspect diagnostic complexe. Et aussi, on participe à l'animation du réseau de l'ex-Picardie. Voilà.
Quels sont les signaux avant-coureurs pour détecter le TSA ?
Alors oui, en effet, alors, ça va dépendre de l'âge de la personne, mais on va reprendre finalement les signes cliniques du TSA. Est-ce qu'on trouve des particularités dans la relation avec l'autre ? Une personne qui ne nous regarde pas dans les yeux, qui exprime peu ses émotions, qui a du mal à décrypter les émotions chez l'autre, qu'il peut y avoir des malentendus sociaux, moins d'emploi de gestes qu'on pourrait attendre, des petites atypies dans le contact. Ça touche aussi la communication, hein, comment se passe le tour de rôle, l'échange, est-ce que la personne cherche à aller vers les autres, est-ce qu'elle fuit parfois le contact, voilà, ça peut se manifester manifester de plein de formes différentes. Et on a aussi toute la deuxième partie des signes avec les caractères restreints, répétitifs, stéréotypés. Donc, est-ce que la personne peut avoir des gestes répétitifs, ce qu'on va appeler des stéréotypies? Est-ce qu'il y a des choses répétitives parfois dans le langage, le fait de répéter les mêmes choses? Est-ce qu'il y a un besoin de rituel, que les choses ne changent pas, une intolérance au changement? Ça va être aussi ce genre de signes. Et toutes les parties qu'on a parlé régulièrement, tous les aspects sensoriels. Hein. La sensibilité, elle peut être différente en fonction de chaque profil. On peut avoir une sensibilité au bruit, au toucher, voilà, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat, etc., etc.
Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que chaque personne est différente et que du coup, tous ces signaux-là ne sont pas forcément évidents à avoir, en fait. Quelles sont les premières personnes qui arrivent à voir ces signaux? Et est-ce que nous, en tant que parents, on peut venir vous voir au CRA, au centre de ressources?
Alors en effet, il est recommandé dans ce cas-là, de, si on a des inquiétudes en tant que parent, de consulter dans un premier temps son médecin traitant ou son pédiatre, qui saura lui adresser vers les bonnes personnes, vers le bon circuit. Donc ça peut être en fonction de l'âge... des fois autour du libéral, hein, peut-être qu'il va d'abord faire des bilans psychologiques, orthophoniques, psychomoteurs, ou peut-être qu'il peut orienter vers tout ce qui est PCO, plateforme de coordination d'orientation, vers les plateformes diagnostiques TSA. Voilà, il y a aussi les CMP, les CMPP, qui sont des structures de prise en charge, où dedans il y a des pédopsychiatres qui peuvent poser des diagnostics. En dernier recours, il y a le centre ressources autisme pour les situations complexes.
Et justement, on a évoqué le mot diagnostic. Comment on fait pour reconnaître ou pour être diagnostiqué de TSA?
Alors c'est une bonne question. Actuellement, le diagnostic de TSA est un diagnostic qu'on va dire clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de sang, une imagerie, un examen qui pourrait à 100% nous dire oui ou non on est autiste. Donc c'est vraiment s'appuyer sur les signes cliniques, ce que montre la personne, et aussi sur ce qu'on va appeler sa trajectoire développementale, c'est-à-dire tous les signes qui a pu se manifester depuis qu'elle est petite jusqu'à l'heure où on la rencontre. Grâce à tous ces éléments et aussi à des bilans qui existent. Certains sont recommandés dans le diagnostic. Donc voilà, les professionnels vont pouvoir s'appuyer sur leur clinique et parfois sur ces outils pour porter le diagnostic.
Est-ce que le diagnostic doit être fait régulièrement pour bien comprendre, bien savoir?
Finalement, une fois que le diagnostic est porté une fois dans sa vie, il est acté. On n'a pas besoin de reporter à nouveau le diagnostic. Par contre, en effet, vous avez raison dans le sens où les signes et la symptomatologie va évoluer. Donc c'est important d'être régulièrement réévalué, suivi, accompagné, parce qu'en effet les signes vont se manifester de manière différente au cours de la vie.
Et si on parle un petit peu de l'accueil, comment se déroule l'accueil des familles, des personnes concernées par le TSA au sein du CRA du coup?
Alors du coup, dans le cadre de la démarche diagnostique, c'est les familles qui viennent ou les personnes concernées, puisqu'on a une unité enfant et une unité adulte, donc une personne adulte peut aussi se poser des questions sur son fonctionnement. Elles viennent vers nous avec un adressage médical. Ça, c'est indispensable pour étudier la demande. Donc, toute cette partie-là, il y aura l'étude du dossier, la mise sur liste d'attente. Et puis après, il y aura une première consultation avec le médecin qui proposera la conduite à tenir pour les éventuels bilans. Ça, c'est pour la partie diagnostic. Après, pour l'accueil au public, toute personne peut venir au CRA n'importe quand. On possède aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et c'est une mission très importante, un centre de documentation. On peut aussi nous contacter par mail pour avoir accès à toutes ces informations-là. L'accueil est tout public, donc on vient au CRA de 9h à 17h quand on le souhaite pour avoir des informations. Pour les personnes pour lesquelles c'est plus difficile de se déplacer, elles peuvent nous faire un mail et ce sera redirigé vers les professionnels concernés.
Vous avez parlé tout à l'heure de rendez-vous, de délai de rendez-vous. Est-ce que les délais sont assez longs?
Oui, en effet, à l'heure actuelle, on a des délais qui sont assez longs. C'est quelque chose qui est plutôt national. Tous les CRA de France ont hélas des délais assez longs. Des choses qui se retrouve aussi avec nos partenaires de terrain qui peuvent aussi nous faire ce retour-là, que même pour les prises en charge, eux-mêmes constatent qu'il y a des délais assez longs dans le soin au sens large.
Et justement, en parlant des partenaires de terrain, est-ce que vous êtes justement en rapport avec des associations en métropole, etc.? Est-ce que vous accompagnez, est-ce que vous recommandez des associations aux différentes personnes qui viennent vous voir pour compléter tout ça?
Alors on est forcément dans notre mission d'animation du réseau, on est forcément en lien avec les associations, qu'elles soient locales mais aussi dans l'Aisne et dans l'Oise, notamment des associations menées par des parents, hein, puisque c'est souvent les associations qui sont très porteuses dans l'autisme. Donc oui, on est en lien et il peut nous arriver effectivement d'orienter les personnes qui nous contactent vers des associations avec lesquelles on travaille de manière assez étroite quand même.
Comment on fait pour vivre avec un un TSA. Quelle solution vous proposez, quelles offres, quels conseils et quelles orientations vous proposez pour pouvoir vivre avec cet handicap?
Alors ça va vraiment être dépendant de la personne. Chaque personne va avoir des besoins différents. Donc ce qui est important, c'est de bien connaître le profil de chaque personne pour pouvoir s'ajuster à ses besoins. Ça va aussi dépendre de l'âge. Par exemple, chez les enfants, on peut avoir besoin, à un moment donné de sa vie, de psychomotricité, d'orthophonie pour travailler la communication, encore de groupes thérapeutiques pour apprendre à être en lien avec les autres et développer ce qu'on appelle ses habiletés sociales, avoir un suivi psychologique, un suivi pédopsychiatrique. Voilà, ce sont des exemples, mais finalement, il existe aussi des structures que je n'ai pas nommées. Mais voilà, c'est un panel d'exemples qui peut s'ajuster au cas par cas de façon individuelle.
Et du coup, je rajouterais aussi qu'on remarque quand même avec le temps qu'il est important pour les personnes concernées de comprendre elles-mêmes leur fonctionnement, de recevoir le diagnostic, de comprendre ce que ça veut dire, ce TSA, en quoi ça impacte leur quotidien, leurs points à améliorer, mais aussi toutes les forces qu'elles ont en elles et toutes les ressources qu'elles vont pouvoir utiliser pour faire face au quotidien. Donc c'est vrai qu'on a aussi beaucoup mis en place cet aspect-là d'accompagnement sur l'après, comprendre ses particularités au-delà des trois lettres en fait.
Pour comprendre ces particularités, vous êtes une équipe au CERA avec énormément de métiers, de profils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt d'avoir autant de métiers, de profils et pourquoi c'est important pour accompagner ces personnes-là?
Alors c'est en effet très important de pouvoir croiser les regards parce qu'on a parlé du diagnostic qui doit être clinique mais il doit aussi être pluridisciplinaire. Donc c'est vraiment intéressant et nécessaire de croiser les regards. Donc avoir une approche à la fois autour du corps et de la sensorialité, je pense à nos collègues psychomotriciens, une approche autour de la communication au sens large, c'est-à-dire que ce n'est pas que la parole, c'est aussi le regard, les gestes, et tout le contenu et l'ensemble des échanges, ça c'est plutôt nos collègues orthophonistes. On a nos collègues psychologues pour aller voir vraiment le fonctionnement cognitif, tout ce qu'on appelle nous les fonctions exécutives et tout ce qui est aussi socio-émotionnel. On a aussi nos collègues éducateurs qui vont pouvoir faire des observations libres, parfois aussi au sein de milieux scolaires ou de milieux où on peut avoir observé l'enfant dans un groupe d'autres enfants. Voilà, et cet ensemble de regards va pouvoir être mis en commun pour ce que nous on va appeler des synthèses des éléments. Et ça va être très précieux pour à la fois poser le diagnostic et comprendre le fonctionnement de la personne.
Et puis c'est vrai que cet aspect pluridisciplinaire, il est dans le cadre du diagnostic, il est indispensable, mais aussi dans nos missions d'accompagnement, puisque dans les métiers cités, on a aussi une infirmière qui va pouvoir faciliter en tout cas l'accès aux soins, notamment via les handiconsultes ou simutètes qui se trouvent au CHU, ou même vers le droit commun en termes de santé. Donc c'est vrai que tous ces métiers-là sont complémentaires. On a aussi, parce qu'elles sont très importantes à notre fonctionnement, nos secrétaires qui vont vraiment avoir un rôle primordial dans l'accueil, l'orientation des familles et des personnes concernées qui sont souvent perdues dans tout ce parcours qui est quand même assez complexe. Donc c'est vrai que ce regard-là, chacun à son échelle finalement participe à l'accompagnement des personnes à tout moment de son parcours au CRA ou en dehors.
On a parlé un petit peu plus tôt du centre de ressources, de documentation en tout cas. Et ma question c'est pourquoi avoir un tel centre, à qui il peut bénéficier et à quoi ça sert finalement ?
Alors on a un tel centre parce que déjà ça fait partie des missions du CRA, donc c'est quelque chose qui est en route depuis la création du CRA qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Et en fait on peut toucher tout type de personnes, ça reste comme notre service en fait. On va avoir des étudiants qui vont faire des recherches sur des recherches médicales, on va avoir aussi des médecins qui vont questionner sur des fois des choses plus précises sur les comorbidités, des traitements. On va avoir tout public, des personnes concernées, des personnes qui s'intéressent simplement au TSA, et c'est vrai qu'on a un large panel de personnes qui nous sollicitent.
Est-ce que vous offrez des formations aux professionnels? Quels sont les grands thèmes abordés pour ces professionnels-là?
Alors, on ne va pas faire ce qu'on va appeler vraiment des formations, on fait plutôt des actions de sensibilisation. Et on essaye de s'ajuster aux demandes. C'est-à-dire que chaque personne, chaque professionnel qui va nous solliciter sur une thématique ou sur un sujet qui pense être un sujet d'entrée, on va étudier sa demande et on va proposer des sensibilisations vraiment en fonction de cette demande. Mais en général, les thèmes retenus, c'est souvent le fonctionnement TSA, donc le fonctionnement en général, les particularités sensorielles et les comportements qu'on appelle comportements défis. tout ce qui va être qu'on appelait avant trouble du comportement, qui va par exemple dans les équipes qui accueillent des enfants ou des adultes au quotidien, qui va questionner les équipes, et là ils vont nous solliciter pour avoir un regard extérieur et mieux comprendre les difficultés de comportement des personnes. Donc c'est plutôt les thématiques, les grosses thématiques qui sont retenues à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de formation qualifiante et nos actions sont gratuites.
Je tenais à remercier Cécile Crovetto et Alicia Ladan du Centre de ressources autisme de Picardie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si vous nous écoutez à midi, n'hésitez pas à passer au centre-ville, place Gambetta, de 10h à 17h pour découvrir toutes les associations et activités proposées par la MDPH et par le département autour des troubles du spectre de l'autisme. Si vous nous écoutez après 18h, évidemment, vous pouvez contacter le CRA, ils sont ravis de vous répondre. Et en fait, simplement adressez-vous aux professionnels de santé. Merci beaucoup. C'était la jolie valse des Viagra Boys. Ce titre, c'est Come Boy dans leur dernier album de luxe, ce titre sorti en janvier de cette année. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 FM à l'écoute d'Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Alors, c'est l'heure de la chronique. On va parler de musique, encore une fois. Alors, voilà. L'histoire de la musique, elle s'étend dans tous les sens. Souvent réprimée, opprimée ou considérée comme contre-nature, certains genres naissants vus comme des phénomènes inquiétants pour l'ordre public. Même le rock, dans ses débuts, même Elvis Presley rencontrait des soucis avec l'autorité. Puis les mouvements hippies, l'arrivée du rap, tous accompagnés par le mépris de classe. Et ensuite, les musiques électro et leur culture. Aujourd'hui, cela fait plus de 30 ans qu'ont été organisées les premières free parties, soirées libres de danse et de célébration de ces musiques autour des sound systems. Plus de 30 ans que tous les acteuristes du monde des musiques électro se défendent face à la répression des autorités publiques pour fêter librement. Dans cette chronique, on va parler musique, free et rave party, leur histoire et le combat que tous mènent encore aujourd'hui. Alors qu'un projet de loi a récemment été déposé à l'Assemblée nationale, voté ce 9 avril, visant à renforcer la criminalisation de l'organisation et de la participation à ces soirées. Un nouvel épisode du traitement sécuritaire et non culturel dont fait l'objet cette scène techno. Récemment, une trentaine d'acteuristes de la scène électro-française ont signé une tribune publiée dans le journal Libération et intitulée « Députés, ne criminalisez pas les free parties ». Dans ces signataires, on retrouve notamment Laurent Garnier, Rebecca Warrior, Barbara Butch, Ascendant Vierre ou encore Pedro Winter, etc. Elle a été coécrite par Frédéric Ocard, qui est adjoint écologique à la maire de Paris, chargé du tourisme et de la vie nocturne, et Éric Labbé, cofondateur de la Maison Message, une agence de communication et plus spécialisée dans la culture, s'intéressant au spectacle vivant, à la musique, aux politiques culturelles et à l'art contemporain. Bon, pour rappel, les free parties sont des soirées organisées par des associations ou groupes de musique électro type techno, tribe, gabber et plus encore. On parle de sound system pour définir le matériel son utilisé, aussi appelé mur, placé devant les platines des DJ et donc du coup à l'avant de la fosse. Ces soirées gratuites et organisées sans autorisation de l'autorité font polémique depuis leur début, entre les années 80 et 90. Elles sont principalement originaires, en tout cas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, du Royaume-Uni, dans les années post-Margaret Thatcher. Des réunions de jeunes friands de son électro pour danser toute la nuit, dans des warehouses, en français donc entrepôts, abandonnés suite à la liquidation de nombreuses entreprises fin 80, début 90. La culture des free parties et des musiques électro, comme tout genre musical, est souvent une forme de réponse à la répression souhaitant l'égalité, l'équité, la liberté d'expression de soi, la paix et l'inclusivité. De nombreuses manifestations passives ont eu lieu ces dernières années pour les défendre, alors que tous les 5 à 10 ans, les menaces sont grandissantes pour ces communautés. Finalement, on n'est pas loin des hippies. Alors rapidement, l'organisation de ce type de fête a été interdite, sauf sur obtention d'une autorisation de l'autorité des environs, qui, selon plusieurs témoignages que j'ai pu récolter, n'est jamais accordée et encourage les organisateurs à se cacher. Mais alors pourquoi tant d'hostilité ? Ces soirées étaient d'abord accusées d'atteinte à la faune et à la flore sauvage, causées par les déchets pouvant être laissés là et les nuisances sonores pour les animaux. Or, la culture free se veut écologique et respecte l'environnement. Un autre problème dont on parlera, la gêne pour le voisinage, mais les organisateurs cherchent justement à s'éloigner de toute forme de vie humaine. Et le droit à la propriété, eh bien, en ce qui concerne les associations free, ils obtiennent l'accord des propriétaires la plupart du temps, surtout ces dernières années. Bon, donc, pourquoi est-ce que ça se passe mal ? La loi est de plus en plus dure, d'année en année, à en croire la frise chronologique qu'on peut retrouver sur le site de l'association Technoplus. Les conflits entre les forces de l'ordre, l'autorité et la communauté se multiplient et surtout s'intensifient. Alors j'ajoute qu'on parle souvent de danger dans ces soirées, et pourtant le danger pour eux c'est plutôt la répression, car on compte de nombreux blessés lors des manifestations passives et même un mort, Steve Maya Canisso, lors de la fête de la musique 2019 à Nantes. Dans cette tribune, on y revient, les différents acteuristes de la scène électro souhaitent, et je cite, « défendre l'existence des fêtes libres, gratuites et anonymes qui sont l'essence même de cette musique. Elles sont un des lieux de liberté, de générosité et d'inclusivité qui sont le socle de la techno depuis sa naissance. » Ils rappellent aussi avoir conscience des enjeux de sécurité, de nuisance et de responsabilité et que depuis plusieurs années, les organisateurs de ces fêtes se sont fédérés, organisés avec des associations et des bénévoles. Des dispositifs de médiation soutenus par les pouvoirs publics ont également été mis en place. Alors je vous invite à lire intégralement la tribune « Députés, ne criminalisez pas les free parties » sur le site Libération pour mieux comprendre. Et donc, que se passerait-il si cette loi de criminalisation est votée ? Alors les organisateurs, les organisatrices de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits pourraient risquer jusqu'à 6 mois de prison et 5 000 euros d'amende, et la notion de participation à l'organisation serait étendue à la diffusion d'informations pratiques ou même à l'installation d'un lieu de repos ou de convivialité sur le terrain occupé. Alors ça fait beaucoup, surtout ajouté à toutes les restrictions et saisies souvent abusives déjà existantes. Imposer l'ordre par la brutalité n'a jamais amélioré l'entente entre les citoyens et citoyennes, les communautés et l'autorité. Trouver un terrain d'entente, par contre, comme compromis, c'est ça qu'ils demandent. En développant et en aidant au développement des associations et organisations free par des financements associatifs, avec l'accompagnement d'associations de médiation extérieure permettant la sécurité et le bon déroulement de ces fêtes, comme le MAI, la Croix-Rouge et autres, ces soirées libres, gratuites et anonymes pourraient subsister. Enfin, bon, avec les coupes budgétaires récentes associatives, ce n'est pas là d'arriver. Parce que lorsqu'il s'agit d'expression artistique et libre, l'humain trouvera toujours des solutions, mais nous ne devrions pas avoir à nous cacher ou à nous défendre, puisqu'après tout, nous vivons dans un pays libre, normalement, non ? D'ailleurs, les musiques électroniques viennent d'être inscrites à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français, première étape vers une reconnaissance internationale par l'UNESCO. Ça prouve bien son importance, qui est non seulement nationale, mais aussi internationale. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais on ne pouvait se concentrer que sur la France aujourd'hui. Et je le rappelle, un jour, c'était le jazz, puis le rock et le rap. Tous les genres de musique y passent. Et finalement, tout va bien, n'est-ce pas, aujourd'hui ? Alors, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez creuser un peu plus dans l'histoire des musiques électro, vous pouvez écouter l'émission Révolution 909, nommée après un titre des Daft Punk, d'ailleurs, sur le site internet de Radio Campus Tours. Aussi, le site Tsugi compte un certain nombre d'articles concernant ces sujets, dont un qui m'a particulièrement plu, sur les dance floors de Damas, où on suit le DJ Wael Malak qui retournait à Damas 15 ans après en avoir été exilé. C'est déjà la fin de ma chronique, enfin, ça y est. Et juste avant de vous dire au revoir, je vous annonce le premier carnaval du Crous Amiens-Picardie. Alors au programme, l'après-midi, ce 2 avril, de 14h30 à 17h30, des ateliers maquillage et de création de costumes, des stands de prévention, un point de restauration sucrée cafétéria et un concert. À 17h30, c'est le départ du défilé, accompagné d'une fanfare dans les rues d'Amiens. Puis les festivités continueront place d'armes jusqu'à 22h avec un concert et une offre de restauration. L'inscription est obligatoire pour entrer, donc ça a lieu sur le site de 20h à 22h. Vous pouvez vous rendre sur le site d'Amiens Métropole pour plus d'informations. Cet événement est gratuit pour tous les étudiants amiénois. Et en plus, le concours de costumes sera animé par Jules, l'un de nos bénévoles, pour l'émission Pour la culture sur Radio Campus Amiens. Voilà, on écoute maintenant Benny and the Jets d'Elton John dans son album Yellow Brick Road, qui est un très grand classique, et on se dit à demain dans Info Club Sandwich. Bonne journée tout le monde. Around.
Bye.